Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeon. Et je suis ravi de vous retrouver cette semaine, comme d'habitude, pour plein de news sur l'actualité du développement de jeux vidéo, sur tout l'aspect business de ce qui se passe côté développement de jeux, création de jeux, développeurs indé ou des studios, etc. Donc, c'est comme, voilà, je suis pris l'habitude d'expliquer un peu quand même ce que c'était le podcast hein, depuis quelques épisodes pour que les gens qui rejoignent le podcast ne soient pas trop perdus. Mais c'est vrai qu'on ne va pas traiter ici de sortie de jeux, mais plus sur l'aspect technique, développement, outils, process et bah, des créations de sociétés ou même des, voilà, des fermetures, des licenciements, des choses comme ça. On va vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe derrière la création d'un jeu vidéo et dans l'écosystème voilà, de création du jeu vidéo. Et pour ne pas oublier les bonnes habitudes, c'est vrai que j'ai à expliquer ici, mais c'est que il faut surtout aller noter ce podcast, mettre plein de petites étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, partout. Vous pouvez retrouver le podcast, là vous nous écoutez, vous avez forcément un moyen de faire connaître ce podcast un peu plus. Donc soit en voilà, mettant un petit commentaire, soit mettre juste 5 étoiles, ça suffit pour que ce podcast ait un peu plus de visibilité, qu'il y ait un peu plus de gens, de monde qui l'écoute. Et ça nous rendrait énormément service. Voilà, il y a toujours un Patreon aussi pour ceux qui souhaitent soutenir le podcast, la création. Donc n'hésitez pas. Hein. Donc Patreon n'offre aucun avantage. C'est vraiment un soutien. Voilà, où vous avez zéro avantage. C'est un peu étrange. Hein. Souvent, les Patreons donnent accès à des contenus exclusifs ou des choses en plus. Mais là, j'ai fait le choix de ne rien donner de plus. Et si vous voulez vraiment soutenir le podcast, vous pouvez. Sinon, voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous aurez quand même le contenu comme tout le monde. Donc, il n'y a aucun avantage à le faire. Mais ça nous apporte plus de soutien. Ça m'apporte en tout cas plus de soutien pour que le podcast continue encore un petit moment et on fait ça dans notre temps libre, on gagne pas d'argent avec, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de publicité, donc c'est tout gratuit, tout open. Donc voilà, mais écoutez, on va démarrer sur les petites news comme d'habitude pour ne pas changer les licenciements continus dans l'industrie du jeu. On parlait des créations de studios, etc. Hein, j'essaie de de tempérer un peu mes propos, mais cette fois-ci, c'est les studios Callisto Protocol qui se séparent d'une trentaine d'employés. Callisto Protocol, c'est ceux qui avaient fait, si je me trompe pas, non, c'est le Callisto Protocol, c'est le jeu, pardon, c'est Striking Distance Studios, qui est le développeur hein, qui avait sorti en 2022 le jeu Callisto Protocol. Et effectivement, il y a une trentaine d'employés qui ont été remerciés ces derniers jours. Donc voilà, ça continue un peu. C'est pas la première fois qu'on parle de licenciement, de fermeture de studio, etc. Mais c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'industrie. Donc en espérant que les gens de chez Callisto vont toujours et rapidement retrouver un poste. Que tout va bien de leur côté. Sinon, autre petite news aussi, c'est sur c'est Epic sur avec Unreal Engine. Ils font pas mal de choses. Il y a des assets gratuits du mois que je détaille plus trop maintenant dans le podcast, mais vous pouvez aller voir sur le site de Epic Games de Unreal Engine surtout les assets gratuits du mois de d'août. Et il y a des promos aussi sur l'Asset Store. Donc si vous voulez télécharger des assets, etc. Aller faire un petit tour et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont présenté un nouveau projet de démo qui s'appelle Crop Out. Donc, c'est un démo, un exemple de projet pour faire un jeu de stratégie un peu casual avec Unreal Engine 5. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on l'approche. Quand j'ai vu un peu les premiers screenshots, je me suis dit, tiens, ça fait penser vraiment à un jeu mobile. Ça fait penser à des jeux de farming, de construction, un peu comme on peut y voir sur le début des jeux mobiles, des tablettes. Et c'est exactement pour ça, en fait, qu'ils ont choisi ce projet pour montrer que ce jeu, cet exemple de jeu peut être fait de façon cross-plateforme. Donc souvent, Unreal Engine n'est pas le moteur de prédilection quand on veut faire des jeux mobiles. Et là, il prouve par rapport avec ce projet-là que des jeux mobiles peuvent être faits avec ce moteur et notamment des jeux de stratégie comme ça. Et ça peut être aussi fait sur PC, console, etc. Que ça peut être vraiment cross-plateforme en utilisant Unreal Engine. Et du coup, c'est un projet assez optimisé pour le mobile, même les assets et tout, les sont vraiment taillé, fait pour le mobile, que les performances sont bien optimisées pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même il y a plusieurs choses, par exemple, que l'UI peut s'adapter en fonction de la résolution, en fonction du device. Pareil pour les contrôles, les inputs et tout ça sont pas forcément les mêmes quand on est sur PC ou sur mobile. Et aussi, il y a une partie un peu scripting, un peu avancée avec même du Blueprint et du Python qui permet de faire des générations procédurales à chaque nouvelle partie. Le joueur se retrouve avec une île totalement différente sur l'île sur laquelle il va démarrer. Donc, ça, il y a un peu de génération procédurale derrière avec ce qu'ils appellent Geometry Script. Donc, c'est un projet à aller voir hein, si vous êtes intéressé par Unreal Engine et si vous êtes intéressé par faire un RTS. Vous pouvez aller jeter un œil. Il y a toute une partie explication. Le projet l'asset est disponible gratuitement sur le marketplace d'Unreal Engine ça marche Windows et Mac. Donc, c'est l'avantage. Je crois que c'est à partir du 5.2 de la version du moteur d'Unreal Engine que vous pouvez utiliser cet exemple. Il y a une vidéo YouTube et tout ça qui explique très bien comment utiliser le sample. L'exemple de ce projet Crop Out, je mettrai le lien en note de l'émission, comme d'habitude, si pour les curieux qui veulent aller tester ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Petite autre news, donc on sait pas petite, mais là c'est un article un peu plus de fond. C'est l'excellent newsletter Game Discover Co. Donc j'en parle souvent dans ce podcast, qui nous parle ici cette fois-ci de la section New and Trending sur Steam. Comment est-ce que ça marche? Parce que c'est vraiment une section qui, bon, moi j'avoue, je regarde. J'aurais à temps en temps sur Steam les jeux qui arrivent et tout en nouveauté, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'informations sur comment fonctionne cette section New and Trending. Et on ne peut pas soumettre par exemple son jeu sur New and Trending, et c'est pas parce qu'on sort un jeu que là tout de suite il va être dans New and Trending. Donc il y a forcément l'algorithme qui va mettre en avant les jeux qui sont affichés dans cette liste, qui est un peu la première liste qui apparaît quand on lance Steam sur sa machine, à part évidemment quand c'est les soldes. Donc ça c'est l'article d'ailleurs mentionne cette partie-là, hein, c'est le fait que si c'est les soldes, cette section n'est pas forcément mise en avant, donc c'est pas forcément le bon moment pour essayer d'apparaître dans le new and trending. Donc, qu'est-ce qu'ils racontent donc leur analyse sur le de gamediscover.co, hein, c'est que la section new and trending c'est une liste voilà qui est sélectionnée par un algo qui permet de donner vraiment une exposition supplémentaire aux jeux qui sortent et qui sont de qualité. D'après leur calcul, il y a environ 5 à 10% de jeux qui sortent chaque semaine qui sont dans cette section new and trending. Donc c'est vraiment une estimation un peu louche, mais c'est pas tous les jeux hein, comme je disais, donc c'est 5 à 10%, c'est assez peu. Mais ce qui est vraiment important dans ces 5 à 10% de jeux, c'est de prendre en compte que ça ne peut pas, c'est que des jeux qui sortent en 1.0. Donc c'est tous les jeux qui sont en early access, qui ne sont pas encore sortis, ne sont pas éligibles à rentrer dans cette catégorie. Donc il faut vraiment séparer ces deux types de catégories de jeux. Donc il y a les new and trending. Pour être dans les new and trending, il faut pas être en early access. Mais pour les démos, ça pourrait marcher tant que c'est en 1.0. Donc démos, jeux gratuits, etc. Tout ce qui est sorti en vraiment sorti peut être éligible à rentrer dans cette section New and Trending. Et l'autre point aussi, c'est de se dire que pour rentrer dans ce statut New and Trending, que c'est vraiment quelque chose qui est attribué au jeu peu de temps après sa sortie. Donc si ça fait si on a sorti un jeu au mois de mars, en juillet, c'est sûr qu'il ne sera jamais dans New and Trending. Comme le dit de toute façon la section New and Trending, c'est vraiment pour les nouveautés et tout ce qui est tendance. Donc forcément, ils ne vont pas mettre 3 mois après la sortie de la 1.0 le jeu dans le New Trending, donc ça fait pas trop de sens. Et c'est surtout qu'il existe aussi une liste pour chaque région linguistique de Steam. Donc il peut y avoir une new trending en France qui est différente de ce qui est en Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, etc. Et donc ça c'est important aussi à garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on est en new trending en France et que ça veut pas dire qu'on l'est partout dans le monde. Donc en fonction de chaque pays, il faut vérifier. Donc après c'est un peu compliqué de vérifier. Hein. Moi je m'étais déjà amusé à créer plein de comptes avec des VPN sur Google ou sur l'App Store pour essayer me positionner dans les pays de façon virtuelle, géographiquement, pour voir si les jeux sont featurés dans tel ou tel pays, qu'on avait obtenu des featurings par Apple ou Google. C'est des choses un peu compliquées. Alors là, sur Steam, j'imagine que ce genre de choses doit pouvoir être faisable. J'ai jamais fait avec Steam, mais j'imagine qu'avec un VPN, peut-être que les listes s'afficheront un peu de façon différente si on arrive à simuler qu'on est dans un autre pays que notre pays d'origine, pour pouvoir avoir la liste de Nuent Training et essayer de comparer. Et j'imagine aussi qu'il va y avoir des sites comme Steam Spy ou Steam Charts qui peuvent aussi afficher les Nuent Training, qui vont faire la collecte de data et nous donner ce genre d'informations de façon un peu plus digeste que ce qu'on pourrait avoir, et de façon plus facile que ce qu'on pourrait l'avoir si on va le chercher à la main, quoi. Donc ça, c'est un point important, c'est vraiment que les listes sont différentes en fonction des langues, quoi. Et des régions linguistiques, même, pour être juste. Voilà. Et après, il y a aussi le classement. Ça a l'air d'être un peu dans un ordre chronologique des sorties de jeux. Donc les jeux nouvellement sortis, ça apparaît tout en haut de la liste, et ça descend au fur et à mesure que les vieux jeux sont là, quoi. Le jeu reste à peu près dit jusqu'à ce que 10 autres jeux apparaissent dans cette liste. Après, c'est assez rare ce qu'ils disent, c'est que le jeu disparaisse peu de temps après qu'il soit dans la liste. Donc il y a quand même quelques jours où le jeu va rester dans la liste, et il va pas disparaître parce qu'il y a 10 autres jeux qui sont arrivés tout de suite dans la liste. Ils vont pas forcément disparaître, ça tourne. Donc il faut compter, je pense, une semaine. Voilà. Et ça concerne évidemment tous les types de jeux, hein, gratuits, démos, gratuites ou payantes, peuvent apparaître tant que c'est une version 1.0. C'est pas du tout basé sur le revenu, hein, même si le jeu rapporte aucun revenu, ou n'est pas du tout payant, ou n'est pas du tout profitable, ni pour Steam, ni pour les développeurs. Ça n'a pas d'importance. Ils peuvent rentrer dans cette section du training. Pour avoir les critères exacts comment être sélectionné sur cette catégorie, ils ne seront pas divulgués par Valve. Donc il n'y a aucune information possible sur comment l'être. Il faut juste espérer que le jeu ait beaucoup de joueurs, peut-être. S'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en même temps à ce jeu, il y a des chances que ce jeu apparaisse, votre jeu apparaisse sur cette section du training. Donc peut-être qu'il faut voir aussi sa stratégie de lancement, de commercialisation, pour l'appuyer avec, par exemple, un partenariat avec des streamers, sur plusieurs streamers qui streament en même temps et qui vont faire venir plus de joueurs. Donc ça aura plus de chances au moment où vous lancez, vous appuyez sur le bouton pour release le jeu, que ça explose un peu les charts, et que vous tombiez dans le new trending au moment où vous lancez le jeu, quoi. Donc il faudrait que ça vous synchronisiez un peu avec tous les influenceurs, le marketing et tout, pour que ce soit fait dans un temps assez court, au moment du lancement de la 1.0. Et ça, c'est mon avis. Mais après, il faudrait établir une stratégie et poser peut-être plus de questions à des gens qui sont plus habitués à avoir leur jeu dans cette fameuse section. Donc voilà, évidemment, dans les soldes, c'est ce que je disais, il n'y a pas de new trending. Donc ça ne sert à rien d'essayer de, enfin pareil, quand vous essayez de cibler les sorties, et éviter de le faire quelques jours avant les soldes, parce que c'est sûr que vous allez rater tout le potentiel d'être dans cette catégorie. Donc il faut vraiment essayer de hop, et les dates de soldes de Steam sont assez facilement prévisibles. Donc le tout, c'est d'être entre deux dates de soldes, pour être sûr que vous ne maximisiez, hein, le fait d'être dans cette catégorie New Training. Voilà, c'est pareil, hein, je mettrai l'article en note de l'émission, les sources, hein, comme ça vous pouvez aller voir aussi, lire l'article en détail de la newsletter. Et dans cette même newsletter, il y a une autre chose. Notre article est vraiment intéressant aussi, pour le coup, qui nous parle un peu de, en gros, du jeu Station to Station de Galaxy Groove et Prismatica, qui a eu un énorme succès sur leur campagne de pré-lancement sur Steam, avec plus de 120 000 personnes qui ont wishlisté le jeu en à peine 2 mois, et 70 000 joueurs uniques qui ont essayé la démo lors du Steam Next Fest. Donc ils ont vraiment fait un super lancement, un super voilà, super communication, super marketing, pour avoir autant de wishlists, parce que souvent là, le nerf de la guerre pour les gens qui se lancent sur Steam, c'est d'avoir un maximum de wishlists avant que le jeu soit disponible, parce que ça garantit un certain nombre de conversions, parce qu'au moment où le jeu sort, ça envoie une notification, un email, etc. aux gens qui ont wishlisté, pour dire hey, le jeu est sorti, tu peux l'acheter, et ça drive des conversions, ça drive des ventes, hein, forcément. Donc le tout, c'est de pouvoir sécuriser ses wishlists. Et 120 000, c'est quand même plutôt dans le haut du panier. Et donc, en ayant en plus 70 000 joueurs uniques pour les premiers jeux lors de sa sortie, c'est vraiment top. Donc, ils ont essayé d'analyser, décortiquer un peu comment ils ont réussi ce tour de force, hein, les gars de chez Galaxy Groove et de Prismatica. Donc, le jeu, évidemment, a un super visuel. Donc, c'est du voxel. Donc, c'est ce que j'appelle le pixel art 3D, quoi, le voxel, qui a vraiment un côté attrayant, charmant, avec un peu de post-process et tout. J'ai regardé un peu les visuels, c'est hyper bien polish, c'est toujours pareil, hein. Le visuel, l'art était très poussé. Il a un rendu graphique très très poussé. C'est pas du voxel brut qui est posé comme ça, c'est pas du Minecraft, quoi. Donc, Minecraft, c'est du voxel, mais assez brut. Mais là, il y a vraiment du post-process, et le visuel est vraiment travaillé, la direction artistique est vraiment travaillée, et ça a beaucoup plu. Il y a eu une vidéo d'annonce aussi qui a beaucoup attiré l'attention avec voilà, une sorte de trailer du jeu, mais il n'y avait pas trop de gameplay, donc ils ont quand même fait une vidéo de gameplay un peu plus détaillée pour mieux expliquer les mécaniques du jeu et un peu susciter l'intérêt de l'audience, des potentiels acheteurs, parce que juste un trailer suffisait pas. Et la stratégie marketing a vraiment été très très fine là-dessus. Ils ont lancé une démo du jeu une dizaine de jours avant le Steam Next Fest, donc pour profiter un maximum de visibilité pour l'événement de Steam Next Fest. Donc ils avaient, je pense, l'équipe de dev a dû cravacher évidemment pour sortir cette démo juste quelques jours avant, ou peut-être la démo était prête avant, et ils ont fait en sorte que ça sorte quelques jours avant le Steam Next Fest. Mais ça a vraiment été profitable pour l'équipe, pour que ça donne un maximum de visibilité lorsque le Steam Next Fest est arrivé, parce que voilà, il y a plein de gens qui ont essayé la démo lors de ce Steam Next Fest. C'est un festival pour les jeux qui ne sont pas encore sortis, hein. Donc, si votre jeu est en cours de développement, vous pouvez lancer une démo et publier, et ce sera disponible pendant le festival de Steam Next Fest. Et puis, ils ont eu un maximum de visites. Le jeu, ça va être un peu plus. Bon, les gens sont aperçus que c'est un jeu assez. C'est pas c'était pas un jeu juste casual et tout ça. C'était quand même il y avait quand même un peu de stratégie, gestion de ressources, donc c'était un peu plus profond que ce que pouvait peut-être laisser entendre les vidéos de trailer ou de gameplay. Et donc ça a beaucoup convaincu et fini par convaincre les gens qui ont essayé la démo d'acheter le jeu complet, quoi, et de wishlister le jeu, et de le jeu surtout, hein, parce que le jeu complet il est pas encore disponible, là c'est plus la démo. Voilà. Et puis c'est vraiment cette combinaison de DA, l'aspect visuel est vraiment très importante, un gameplay solide, et qui a vraiment suscité ça, et le côté stratégie marketing, hein, pour sortir le jeu quelques jours juste avant le Steam Next Fest, c'est un bel exploit, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça peut peut-être vous inspirer pour vos futurs prods à vous aussi. Petite autre news, les Kickstarter vont devoir projets qui sont kickstartés à partir de fin août, là, donc le 29 août. Kickstarter change un peu la politique. Il demande maintenant à tous les projets qui utilisent de l'intelligence artificielle générative de le mentionner, de le déclarer explicitement sur leur page, de dire que le projet utilise de l'IA. Par exemple, si vous écrivez un livre, ou même un jeu de société ou un jeu vidéo, et que vous utilisez de l'IA dessus, il faut le déclarer, il faut le dire ouvertement, et pas le cacher pour pas décevoir certaines personnes, et que vous montrez un peu patte blanche. Donc, c'est aussi une volonté de Kickstarter de se conformer aussi aux droits d'auteur, à tout ce qui peut poser comme problème à certaines IA qui vont peut-être piocher dans les styles, ou créer des choses qui sont un peu copyrightées, qui n'ont pas forcément le droit. Donc c'est vraiment le montrer, et puis dire aussi comment l'IA va être utilisée, parce que peut-être que vous l'utilisez que pour la partie démo ou prototype, et que la version complète vous allez peut-être pas l'utiliser. Donc, mais vraiment le montrer, l'annoncer, comme ça Kickstarter vous met un petit badge sur votre projet disant que vous utilisez l'IA sur votre projet. Donc ça montre que voilà, ça montre beaucoup plus de transparence, et c'est mieux quand même pour les gens qui vous soutiennent sur le projet de savoir à quoi il faut s'attendre en soutenant un projet utilisant l'IA génératif. L'IA génératif en soi n'est pas mal, hein, parce que moi-même j'utilise sur nos projets et tout pour faire des prototypes, des démos, etc. S'en servir comme support d'aide à la décision, ou pour aider un peu l'aspect créatif de votre projet. Mais c'est un peu mal vu parfois, où le jeu tel quel est fait avec l'IA est sorti tel quel sans vraiment retravailler, et c'est fois par hasard, hein, vu que l'IA est alimentée par plein de ressources qui viennent un peu de partout, se retrouve à utiliser des styles de graphiques ou des choses qui ont été faites par d'autres artistes ou très proches, on va dire, de ce qui est fait par d'autres artistes ou des auteurs, et que du coup ça peut poser peut-être des problèmes de copyright et de droit d'auteur. Donc voilà, à partir de fin août, il faudrait déclarer si vous faites de l'IA, vous utilisez l'IA générative sur vos projets lors de vos projets Kickstarter. Voilà pour la partie Kickstarter. Et sinon, sinon, un petit article super intéressant aussi sur le blog d'Unity qui nous montre un peu comment utiliser Shader Graph avec la version 2022 LTS de Unity pour faire des shaders de nature, enfin le sable, et particulièrement le sable et l'eau. Donc il y a vraiment des exemples sur comment pour l'URP, hein, l'Universal Render Pipeline, c'est de développer des shaders avec une eau un peu stylisée, et l'autre c'est du sable un peu pareil, semi-réaliste. Donc il montre un peu les différentes techniques, comment utiliser voilà les normal blending, les flexions, les voilà. Et aussi il y a un passage un peu sur le processus créatif, sur comment il est composé, comment la réflexion, comment on arrive à faire les différentes étapes et tout. C'est assez détaillé, c'est assez bien fait. Donc si vous travaillez avec Unity et que vous voulez vous intéresser un peu au shader et comment utiliser Shader Graph en particulier pour faire de l'eau ou du sable, ça peut être un bon point de départ pour vous. Et surtout, bah, ils encouragent aussi à rejoindre le Discord et les forums Discord de Unity pour en discuter, voilà, apprendre un peu plus sur l'usage et de Shader Graph et des outils de Unity. Donc je vous mettrai le lien de cet article en note de l'émission si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon d'intéressant? Je pense qu'on a fait à peu près le tour des news là, cette semaine. Donc vous pouvez toujours retrouver le podcast. On est présent quand même sur YouTube, hein, vous voulez écouter. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné au début de l'émission, donc on n'est pas que sur le plateforme de podcast, il y a aussi la chaîne YouTube et les coulisses du jeu. On a aussi le Twitter, arrobase coulisses du jeu. On est sur voilà, d'autres choses aussi, sur Twitch, etc., mais beaucoup moins présent. Là, le plus de chances que vous avez de nous retrouver, c'est Twitter, les plateformes de podcast et YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à noter, à commenter, et on se dit à la semaine prochaine. Bye.